Troisième jour, sexte, où Watso reçoit les confidences de Salvatore, qu'on peut résumer en quelques mots, mais qui lui inspirèrent bien des méditations inquiètes.
Tandis que je mangeais, je vis, évidemment réconcilié avec le cuisinier, Salvatore, qui dans un coin dévorait un pâté de viande de mouton. Il mangeait comme il n'avait jamais mangé de sa vie, ne laissant rien tomber, pas même une miette, et il paraissait rendre grâce à Dieu pour cet événement extraordinaire. Il me fit un clin d'œil et me dit dans son langage bizarre qu'il mangeait pour toutes les années où il avait jeûné. Je l'interrogeai. Il me raconta son enfance de douleur, dans un village où l'air était mauvais, les pluies très fréquentes, et où les champs pourrissaient tandis que l'atmosphère était viciée par des miasmes mortifères. Il y eut, d'après ce que je compris, des alluvions pendant des saisons et des saisons, au point que les champs n'avaient plus de sillons, et qu'avec un boisseau de semences on faisait un setier, et puis le setier se réduisait encore à presque rien. Les seigneurs aussi avaient des faces blanches comme les pauvres, encore que, observa Salvatore, les pauvres mourussent davantage que les seigneurs, sans doute, observa-t-il avec un sourire, parce qu'ils étaient en plus grand nombre. Un setier coûtait 15 sous, un boisseau 60 sous. Les prédicateurs annonçaient la fin des temps, mais les géniteurs et les aïeux de Salvatore se rappelaient que ça n'était pas la première fois, tant et si bien qu'ils en avaient tous tiré la conclusion que les temps étaient toujours sur le point de finir. Et ainsi, quand ils eurent mangé toutes les charognes des oiseaux et tous les animaux immondes qu'on pouvait trouver, le bruit courut que quelqu'un dans le village commençait à déterrer les morts. Salvatore expliquait avec beaucoup de verve, avec des façons d'histrion, comment avaient accoutumé de faire ces homines malissimes qui creusaient avec leurs doigts sous la terre des cimetières le lendemain des funérailles. « Niam !» disait-il. Et il plantait les dents dans son pâté de mouton. Mais moi, je voyais sur son visage la grimace du désespéré qui mangeait le cadavre. Et puis, non content de creuser en terre consacrée, certains, pires que les autres, comme des voleurs de grand chemin, se tapissaient dans la forêt et surprenaient les passants. « Zac !» disait Salvatore, le couteau à la gorge. « Et niam !» Et les derniers des derniers appâtaient les enfants avec un œuf ou une pomme, et ils en faisaient un carnage. Toutefois, comme Salvatore me précisa avec un grand sérieux, en les cuisant d'abord. Il raconta l'histoire de l'homme qui arriva dans son village en vendant de la viande cuite pour quelques sous, et tous les gens ne réussissaient pas à se convaincre de cette aubaine. Puis le prêtre dit qu'il s'agissait de chair humaine, et l'homme fut réduit en bouillie par la foule enragée. Mais la nuit même, un quidam du village alla creuser la fosse de l'assassiné et mangea de la chair du cannibale, si bien que lorsqu'il fut découvert, le village le condamna à mort lui aussi. Salvatore ne me raconta pas seulement cette histoire. À mots tronqués, m'obligeant à me rappeler le peu que je savais de provençal et de dialecte italien, il me fit l'histoire de sa fuite de son village natal et de son errance par le monde. Et dans son récit, je reconnus beaucoup d'errants déjà connus ou rencontrés le long de notre route, et beaucoup d'autres que je connus après. Je les reconnais à présent à telle enseigne que je ne suis plus certain avec le temps de ne pas lui attribuer aventures et crimes appartenant à d'autres qui l'ont précédé ou suivi, et s'aplatissent à présent dans mon esprit là pour dessiner une seule image, par la force de l'imagination précisément, laquelle, unissant le souvenir de l'or à celui de la montagne, s'est composée l'idée d'une montagne d'or. Souvent, au cours du voyage, j'avais entendu Guillaume nommer les simples, terme par lequel certains de ses frères désignaient non seulement le peuple, mais en même temps les illettrés. Expression qui me sembla toujours générique, car dans les villes italiennes, j'avais rencontré des marchands et des artisans qui n'étaient point grands clercs, sans toutefois être illettrés, même si leur connaissance se manifestait à travers l'usage de la langue vulgaire. Et il faut le dire, certains des tyrans qui gouvernaient en ce temps-là la péninsule étaient de la plus grande ignorance en matière de sciences théologiques et médicales, et de logique et de latin, mais ils n'étaient certes pas des simples ou des ingénus. C'est pourquoi je crois que mon maître aussi, quand il parlait des simples, se servait d'un concept plutôt simple. Mais, aucun doute à cela, Salvatore était un simple. Il provenait d'un coin de campagne éprouvé depuis des siècles par la famine et la prépotence des seigneurs féodaux. C'était un simple, mais ça n'était pas un sot. Il aspirait à un monde différent, qui, au temps où il s'enfuit loin des siens, selon qu'il me dit, prenait l'aspect du pays de Cocagne, où sur les arbres suintant de miel s'épanouissent des faisselles pleines de fromage et des andouillettes parfumées. Poussé par cette espérance, refusant presque de reconnaître ce monde comme une vallée de larmes, où, comme on me l'a enseigné, l'injustice même a été prédisposée par la Providence pour maintenir l'équilibre des choses, en raison de quoi souvent son dessein nous échappe, Salvator traversa maintes contrées, depuis son Montferrat natal en direction de la Ligurie, et de là remontant de la Provence aux terres du roi de France. Salvator erra de par le monde, en mendiant, en maraudant, en se faisant passer pour malade, en se plaçant provisoirement chez quelques seigneurs, en reprenant de nouveau le chemin de la forêt, de la grande route. D'après le récit qu'il me fit, je l'imaginais associé à ces bandes de vagabonds qui, dans les années qui suivirent, je vis de plus en plus souvent rôder à travers l'Europe. Faux moines, charlatans, dupeurs, besaciers, bélitres aigueux, lépreux et estropias, batteurs d'estrade, marchands et musiciens ambulants, clercs sans patrie, étudiants itinérants, fricoteurs, jongleurs, mercenaires invalides, juifs errants échappés aux infidèles avec l'esprit impotent, fous, fugitifs en rupture de banc, malfaiteurs aux oreilles coupées, sodomites, et parmi eux artisans ambulants, tisseurs, chaudronniers, chaisiers, rémouleurs, rempailleurs, maçons ou encore fripouilles de tout acabit, tricheurs, filous, fiefés coquins, vauriens, gens sans aveu, sans feu ni lieu, meurent de faim, cul-de-jatte, truands, porte-balles, et chanoines et prêtres simoniaques et prévaricateurs, et gens qui vivaient désormais sur la crédulité d'autrui, faussaires de bulles et de sots papaux, vendeurs d'indulgences, faux paralytiques qui s'allongeaient aux portes des églises, rôdeurs fuyant leurs couvents, marchands de reliques, rédempteurs, devins et chiromanciens, nécromants, guérisseurs, faux quêteurs et fornicateurs de tout acabit, corrupteurs de nonnes et de fillettes par ruse et violence, simulateurs d'hydropisie, épilepsie, hémorroïdes, gouttes et plaies, ainsi que de folies mélancoliques. Il y en avait qui s'appliquaient des emplâtres sur le corps pour faire croire à des ulcères incurables. D'autres qui se remplissaient la bouche d'une substance couleur de sang pour simuler des crachements de phtisique. Des pandards qui feignaient d'être faibles, d'un de leurs membres portant des cannes sans nécessité et contrefaisant le mal caduc. Galles, bubons, enflures, appliquant bandes, teintures de safran, portant des fers aux mains, bandages à la tête, se faufilant, puant dans les églises et se laissant tomber d'un coup sur les places, crachant de la bave et roulant des yeux, soufflant par les narines du sang fait de jus de mûre ou de vermillon, pour arracher nourriture ou denier aux gens apeurés, qui se rappelait les invitations des saints pères à l'aumône. Partage ton pain avec l'affamé. Emmène sous ton toit qui n'a point de gîte. Rendons visite à Christ, accueillons Christ, habillons Christ. Car ainsi que l'eau purge le feu, ainsi l'aumône purge nos péchés. Même après les faits que je raconte, le long du Danube, j'en vis beaucoup. Et j'en vois encore de ces charlatans qui avaient leur nom et leur subdivision en légions comme les démons. Capons. Riffedé, proto-médecin, Poperes Verecundi, Franc-Mitou, Narquois, Archisuppo, Cagou, Petite Flamme, Ubin, Sabouleux, Farinoise, Feutrard, Bagneau, Trouillefou, Pied-de-Boue, Apuans et Atrantulés, Fanuels et Fapasquette, Mutuelleur, Freson, Trouvin, Faubourdon, Surdan, Surlacrimes et Surant. C'était comme une boue qui coulait par les sentes de notre monde. Et entre elles se glissaient les prédicateurs de bonne foi, des hérétiques à l'affût de nouvelles proies, des fauteurs de discorde. Ça avait été précisément le pape Jean, vivant dans la crainte que les mouvements des simples prêchassent et pratiquassent la pauvreté, qui avait fulminé contre les prédicateurs quêteurs, lesquels, d'après ses dires, attiraient les curieux en hissant des bannières colorées de figures, prêchaient et extorquaient l'argent. Était-il dans le vrai, le pape simoniaque et corrompu, quand il assimilait les frères quêteurs qui prêchaient la pauvreté à ces bandes de déshérités et de coupe-jarrets. Moi, en ces jours-là, après avoir un peu voyagé dans la péninsule italienne, je n'avais plus les idées très claires. J'avais entendu des frères d'Alto Paccio qui, tout en prêchant, menaçaient d'excommunication et promettaient des indulgences, absolvaient les rapines et les fratricides, les homicides et les parjures contre compensation sonnante et trébuchante, laissaient entendre que dans leur hôpital se célébrait chaque jour jusqu'à 100 messes, pour lesquelles ils recueillaient des donations et qu'avec leurs biens ils dotaient 200 jeunes filles pauvres. Et j'avais entendu parler de frère Paul le Boiteux, qui en pleine forêt de Rieti vivait dans un ermitage et se vantait d'avoir eu directement du Saint-Esprit la révélation que l'acte charnel n'était pas péché. Ainsi, il séduisait ses victimes, qu'il appelait ses sœurs, en les obligeant à offrir leur chair nue au fouet, tout en faisant sur la terre cinq génuflexions en forme de croix, avant de les présenter à Dieu et d'exiger d'elle ce qu'il appelait le baiser de la paix. Mais était-ce vrai? Et quel lien existait-il entre ces ermites qui se déclaraient illuminés et les frères de pauvre vie qui sillonnaient les chemins de la péninsule en faisant vraiment pénitence, détestés par le clergé et les évêques dont ils stigmatisaient les vices et les vols? D'après le récit de Salvator, tel qu'il se mêlait aux choses que je savais déjà par moi-même, ces distinctions n'apparaissaient pas au grand jour. Tout semblait égal à tout. Tantôt, il me faisait penser à l'un de ces claque-dents estropiés de Touraine dont parle la fable, qui, à l'approche de la dépouille miraculeuse de Saint-Martin, prirent leurs jambes à leur cou de peur que le saint ne les guérît, leur ôtant ainsi la source de leurs gains, et le saint impitoyable les gracia avant qu'ils ne rejoignissent la barrière, les punissant de leur mauvaiseté en leur restituant l'usage des membres. Tantôt, au contraire, la face féroce du moine s'illuminait de très douces lumières quand il me racontait comment, en vivant parmi ces bandes, il avait écouté la parole de prédicateur franciscain, tout comme lui clandestin, et il avait compris que la vie pauvre et errante qu'il menait ne devait pas être prise comme une sombre nécessité, mais comme un geste joyeux d'abnégation. Et il avait fait partie de sectes et de groupes pénitentiels dont il estropiait les noms et définissait fort improprement la doctrine. J'en déduisis qu'il avait rencontré des patarins et des vaudois, et peut-être des cathares, des disciples d'Arnaud et des humiliés, et que, vaguant de par le monde, il était passé de troupe en troupe, assumant graduellement, comme une mission, sa condition d'errant, et faisant pour le Seigneur ce qu'il faisait pour son ventre. Mais comment et jusqu'à quand?